Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, 2 heures de médias et de culture au sens large. Avec le journal des médias, évidemment, le journal de la culture, nos conseils pour les sorties cinéma. Nous sommes mercredi et la découverte de la moitié du groupe R en la personne de Nicolas Gaudin. Notre info média, 3 départements français n'ont plus de quotidien local. Désormais, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane sont les seuls à être privés de journal après la liquidation du groupe France Antilles prononcée jeudi. Comment en est-on arrivé là? Et surtout, est-ce que cela pourrait repartir? Réponse en direct de Paris et de Pointe-à-Pitre avec le décalage horaire. Nos invités, Élodie Gossuin, Miss France 2001, qui présente Famille Extraordinaire sur Sister. L'audience ne cesse de monter et elle s'y connaît en Famille Extraordinaire. Elle est mariée à un mannequin, déjà c'est pas souvent. Ils ont 2 paires de jumeaux, elles travaillent tous les matins à Paris à l'aube, mais ils habitent en Picardie. Enfin, Richard Anconina, il a le premier rôle dans Le Mauvais Garçon, une fiction qui passe ce soir sur France 2 dans le cadre d'une soirée continue et qui pose une bonne question. Quand on a fait de la prison, est-on coupable à jamais? Il y aura évidemment son portrait inattendu vers 10h15. Je vous donne le nom de la coupable, Hélène Manarino. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Bonjour Benjamin Delsol.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est la tradition, on démarre Culture Média par le journal des médias. Quoi aujourd'hui au menu?
Un lancement compliqué pour la chaîne web Le Live, une folle histoire de travestis et des vachettes ou pas de vachettes.
Mais d'abord Benjamin, les audiences d'hier soir à la télé, qu'est-ce que les Français ont regardé?
Et c'est France 3 hier soir qui arrive en tête avec son téléfilm policier Prière d'enquêter avec Sabrina Ouazani. Vous étiez 4 264 000 téléspectateurs, soit un beau 20% de part de marché. En deuxième position, c'est TF1 et le reboot de sa série Magnum. 3 383 000 téléspectateurs, soit 15,5% de part de marché. Et en troisième position, c'est le concours, le télécrochet des entrepreneurs en herbe sur M6 qui veut être mon associé, présenté par Julien Courbet, qui a été suivi par 1 751 000 téléspectateurs, soit 8,9% de part d'audience. Ça monte de semaine en semaine, puisque la semaine dernière, c'était 1 705 000. Et à signaler le petit score pour le grand concours, le concours d'éloquence présenté par Laurent Ruquier sur France 2.
Ouais, et hier, Michel Field était notre invité et l'an passé, la saison dernière, le score n'était pas formidable. Il disait que c'était pas ce qui était recherché.
C'était 1 390 000 téléspectateurs. Voilà,
oui, mais le vainqueur du concours d'éloquence de l'an passé a vu sa vidéo vue par 10 millions de Français. Le journal des médias maintenant, vous revenez pour démarrer sur un lancement plus compliqué que prévu.
Oui, lundi, je vous annonçais ici même le lancement de la chaîne Le Live, imaginé par le groupe Webedia. C'est le projet phare du groupe, c'est comme ça que l'expliquait Véronique Morali, sa présidente, dans les colonnes du JDD. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, Le Live, c'est une chaîne web qui réunit à la fois la crème des youtubeurs et des stars venues de la télé traditionnelle. Ouais. Avec au programme des émissions qui se succèdent tous les jours de 17h à minuit, 50 heures de direct, diffusées chaque semaine sur tous les réseaux. On en avait parlé, YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat, etc., etc. La cible, c'est clairement les 15-35 ans. Lundi soir, à 18h et quelques, ça a commencé comme ça.
On est tous partis d'en bas et maintenant on est là. Donc quand je dis starting from the bottom, vous répondez tous now we here. Starting from the bottom,
now we here.
Starting from the bottom,
now we here.
Let's go. On va soulever des grands-mères, je vous le dis. Venez les annonceurs, on adore ça.
Hashtag soulever des grands-mères.
Voilà, donc l'humoriste Kevin Razi, venu de Canal+, désormais à la tête d'une émission quotidienne de 2 heures, entouré de tous les animateurs, a lancé les hostilités. Puis il a invité les spectateurs à réagir en live sur les réseaux, c'est le principe même de la chaîne.
N'hésitez pas à nous mettre des messages, à chatter.
Mais rapidement, tout s'est compliqué alors que jusqu'à 15 000 spectateurs en simultané assistaient à tout ça derrière leurs écrans d'ordinateur ou de smartphone. Des problèmes techniques, des propos déplacés, des blagues un poil douteuses et les réseaux sociaux se sont retrouvés inondés tout au long de la soirée de tweets et de commentaires catastrophiques écrits par des centaines de spectateurs visiblement pas convaincus par le projet. Puis, 4 heures seulement après avoir été lancée, la chaîne Le Live a carrément été bannie de Twitch, la plateforme américaine de streaming préférée des joueurs de jeux vidéo, et sa diffusion a été interrompue lorsque l'animateur a cité le N-word.
Le N-word, qu'est-ce que c'est? N-word en anglais.
Exactement, le N-word, c'est le mot nigger, nègre en français, un mot que certains disent chez nous, entre potes, sans savoir ce qu'il signifie réellement. En fait, en France et dans la bouche de Kevin Razi, nigga, c'est cool. Mais aux États-Unis et notamment sur la plateforme, nigger fait partie des mots interdits. Quand il est détecté, l'utilisateur est banni, ce qui est donc arrivé lundi. même si évidemment pour l'animateur il n'y avait aucune connotation raciste derrière ça, encore faut-il le préciser.
Oui, voilà, et vous l'avez dit, ce lancement n'a pas été totalement réussi et également beaucoup commenté dans la presse.
Oui, ce lancement, il a été commenté mais critiqué, oui. Le Parisien a titré, je cite, sur le lancement chaotique, 20 minutes explique, le live plante son lancement entre soucis techniques et blagues douteuses, ou encore Le Point en remet une couche, le lancement de la web télé tourne à la Bérésina. Et contacté par Le Parisien, le groupe Webedia reconnaît que le lancement est loin d'être parfait. Ils ont ajouté sur les réseaux sociaux, on a eu 2-3 soucis, mais que ceux qui n'ont jamais bugué en lançant un projet de cette envergure nous jettent la première pierre. Et Philippe Despierres, ils s'en sont pris.
En même temps, je me rappelle du lancement de Canal+, tout avait planté, et puis après, vous avez vu ce que c'est devenu. Hier, à 19h alors.
Et hier, dès 17h, comme prévu, le live s'est rallumé. Les émissions ont repris sur toutes les plateformes, sauf sur Twitch, donc presque comme si de rien n'était. Et Kevin Razi a juste ironisé au début de son émission.
Hier, on a lancé la chaîne Le Live. Bon, on l'a lancé un peu en galère. Il y a eu des problèmes techniques, le son étant décalé. Moi, je sais que le soir même, tu vois, après l'émission, j'étais lessivé, je suis rentré à la maison. Je suis allé dormir direct, tu vois. Le lendemain, en me réveillant, je regardais les messages de mes potes et tout, j'avais l'impression que j'étais décédé.
Voilà, donc Kevin Razi est bien vivant. Le live aussi, comme son nom l'indique. En revanche, toutes les vidéos du premier jour et du lancement ont été supprimées des différentes plateformes où elles étaient censées pouvoir être visibles en replay. Quoi qu'il en soit, le live aura évidemment le temps de s'installer puisque finalement, c'est pas comme à la télé.
Voilà, et on leur souhaite bonne chance quand même et on les invite à venir ici dans Culture Média. On va revenir à la télé, la vraie, à l'ancienne, presque, Benjamin, un documentaire stupéfiant qui nous fait découvrir des travestis.
On ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi.
Oui, ce matin, je vous parle d'hommes, de femmes, d'hommes qui se changent en femmes, de femmes qui se changent en hommes, des travestis qui ont traversé le temps, les époques et les évolutions de la société aussi. C'est le sujet d'un nouveau très beau film de la collection Le Doc Stupéfiant, qui est incarné par Léa Salamé, et diffusé ce soir sur France 5. Derrière ce projet, on retrouve deux hommes, Jérôme Bermin et Guillaume Audat, qui ont choisi de nous raconter la folle histoire des travestis. C'est le titre de ce film archi-documenté, euphorique, joyeux, mais qui ne tombe jamais dans le cliché. Alors, quelle est l'image du travesti et de la travestie ? On a été leur poser la question. Les deux réalisateurs répondent en chœur au micro de notre journaliste, Louise Bernard.
C'est une figure dont on s'en empare, un peu pour le burlesque, un peu pour le caricatural. Mais au fond, on a découvert aussi qu'on véhiculait des messages qui sont des messages sociétaux.
Parce qu'elle va aujourd'hui questionner le genre, questionner nos identités. Et ce qu'elle faisait déjà depuis toujours. Nous, le film, on ne fait pas tous les siècles. Mais on démarre à partir de quoi, 17e, 18e. Et on remonte jusqu'aux années 80 où la travestie devient une figure pop et rentre dans la lumière.
Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le film ?
De nombreux témoignages, des images d'archives rares, des extraits de films, La Cage aux Folles, forcément, Tutsi, avec Dustin Hoffman. Et ce documentaire nous montre aussi, et surtout, que le travesti n'est pas forcément là où on l'attend. La folle sort de sa cage, dans les cabarets, oui, mais aussi sous les ors de Versailles, de la Comédie Française et même à l'Académie.
À l'Académie ?
Ouais, à l'Académie.
Il y a des travestis à l'Académie ?
Eh oui, vous verrez ça ce soir. C'est toute l'histoire de l'art qui est concernée par le sujet. Et petite pépite, en remontant dans le passé, finalement pas si lointain, le film nous dévoile une histoire méconnue du grand public où un certain Serge Gainsbourg côtoyait de près les créatures du cabaret Madame Arthur, le plus vieux cabaret parisien. Interrogé par les réalisateurs du film, celui qui devient Charlie Vaudou sur scène chaque soir nous raconte les faits.
Il est très étroitement lié au milieu travesti, Gainsbourg, parce que il a travaillé chez Madame Arthur, il remplaçait son papa au piano, et Gainsbourg, ses premières chansons, il les a composées pour les travestis avec lesquels il travaillait.
Gainsbourg a toujours caché ses premières chansons écrites pour des travestis. En 1955, il compose Antoine Le Casseur pour Lucky Sarcelle. Ce morceau, jamais enregistré, inédit, le voici.
Antoine Le Casseur, c'est lui que j'ai dans mon cœur. Avec son blaze, il a du vase, il réussit toujours son coup.
Antoine Le Casseur, réinterprété par la troupe du cabaret Madame Arthur, c'est l'une des séquences de ce documentaire à ne pas manquer, La folle histoire des travestis, réalisée par Guillaume Audat et Jérôme Bermin. C'est ce soir à 21h05 dans le Doc Stupéfiant avec Léa Salamé sur France 5.
Et pour terminer, une question qui agite aussi bien le web que la France profonde, vachette ou pas vachette ?
Alors, il y a quelques jours, Nagui a annoncé le retour d'Interville, le jeu mythique lancé par Guy Lux et Claude Savary à la télévision en 1962 et relancé de nombreuses fois depuis. Une nouvelle version animée par Olivier Mine, Valérie Beg et Bruno Guillon que l'animateur va produire pour France 2. Interville, c'est un générique.
Everybody.
Et Interville, vous le savez, ce sont à chaque émission deux villes françaises qui s'opposent dans des joutes, des jeux, de la franche camaraderie et des vachettes qui collent au train des candidats. Sauf que cette fois, pour répondre à votre question, Philippe, pas de vachette.
Et
oui,
scratch.
Et oui, scratch. À l'heure où la matinale, où la maltraitance, pardon, animale s'est imposée dans le débat public, Nagui, en fervent défenseur, a décidé de s'en passer. Il annonce, je cite, vouloir un jeu extrêmement bon enfant, drôle, avec du dépassement de soi et dans nos traditions françaises, mais dans la limite du respect de la souffrance animale. Et pour sourire aussi, il le dit, dans la limite du respect de la souffrance des candidats.
Et forcément, ça a fait réagir, parce que c'est historique, les vachettes.
Oui, et puis en même temps, on en revient au sempiternel débat des pros et des anti, comme pour la corrida. Donc les principales communes d'arène française, Béziers, Nîmes, Dax, Bayonne, appellent au boycott du programme, rejoint par l'Union des villes taurines françaises. Mais pas de quoi faire trembler Nagui, qui a balancé à la radio une petite pique. Aïe ! Concernant cette association, il nous a expliqué que ces 50 maires ou participants de cette association, ce ne sont pas les habitants de la ville. Il y a un truc qui s'appelle la télécommande et qu'ils pourront donc regarder ou pas. Et pour les plus jeunes qui nous écoutent, donc la télécommande, c'est un petit boîtier qui permet de changer les chaînes de la télévision sans se lever de son fauteuil. Et pour ceux qui veulent regarder, Interville revient donc cet été sur France 2 et sans vachette.
Merci beaucoup Benjamin, à demain.
À demain.
Bravo. À suivre l'info média du jour, on va parler de la disparition du journal France Antilles qui a été publié pour la dernière fois ce samedi le 1er février. Et on en parle avec nos invités dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour.
Trois départements français, c'est pas une bonne nouvelle, n'ont plus de quotidien local. La Guadeloupe, la Martinique et la Guyane sont les seuls à être privés de journal après la liquidation judiciaire du groupe France Antilles, liquidation prononcée jeudi dernier par le tribunal de commerce de Fort-de-France. Une dernière édition pour dire au revoir aux lecteurs est parue samedi en Martinique et en Guadeloupe, où 55 000 exemplaires de France Antilles ont été tirés contre 20 000 habituellement le samedi, en hommage aux 55 ans qu'aura vécu ce journal. Un numéro en vente jusqu'à aujourd'hui pour que la population ait le temps de dire au revoir à son quotidien et pour soutenir financièrement les 235 salariés des Antilles et de Guyane qui se retrouvent désormais au chômage. Pour en parler, nous sommes avec Emmanuel Poupard, premier secrétaire général du SNJ. Bonjour.
Bonjour.
Le syndicat national des journalistes qui suit attentivement ce dossier depuis plusieurs mois. Avec nous également depuis BMAO, Caroline Babelin, vous êtes rédactrice en chef de France Antilles Guadeloupe. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va Caroline? Je vous pose la question parce qu'à BMAO, il est 4h20 du matin.
Oui, c'est ça.
Vous êtes réveillée tôt ou vous avez fait la nuit blanche?
Non, réveillée tôt quand même.
Caroline Babelin, blague à part parce que c'est pas joyeux du tout. Le 30 janvier, jour de la liquidation judiciaire, vous avez tweeté « J'ai entendu souvent, c'est pas possible. Eh bien si, un quotidien qui informe chaque jour la population depuis 55 ans peut disparaître du jour au lendemain. D'abord, ça a été si brusque que ça. Et deuxièmement, comment avez-vous vécu cette disparition vous-même ?»
Ça a été brutal, même si nous avons vu des difficultés quand même depuis des mois, mais comme je l'ai écrit, personne n'y croyait. C'était impossible.
Parce que ce n'était pas tout à fait une surprise non plus. Le groupe France Antilles, ancienne filiale du groupe Hersant, avait accumulé des pertes de 500 000 euros par mois pour un chiffre d'affaires annuel de 28 millions d'euros, donc ce n'est pas rien. Le groupe était en redressement judiciaire depuis le 25 juin dernier. Comment en est-on arrivé là ?
Eh bien, le groupe a été racheté il y a 2 ans.
Oui.
De gros investissements ont été faits, essentiellement sur 2 rotatives.
Ouais.
Une pour la Martinique et l'autre pour la Guadeloupe.
Ouais.
Et en fait, ça s'est avéré très très compliqué, la mise en route de ces rotatives. D'ailleurs, en Martinique, ils n'ont jamais vraiment réussi à sortir le journal comme il fallait, même au bout d'un an.
Ouais.
Et tout cela, ça nous a... ça a été une descente petit à petit.
Pardon de donner mon avis, mais c'est complètement rageant. Parfois, il y a des journaux qui cessent faute de lecteurs. Mais là, le public était là, l'attente était là. Et c'est juste un problème technique qui est en train de vous tuer.
Non, il y a une érosion des lecteurs quand même. Il y avait une érosion des lecteurs qui était constante depuis 10 ans.
Ouais. Il fallait, vous disiez, ce nouveau plan de sauvetage, il fallait trouver 1,3 million d'euros supplémentaires. Ce n'est pas non plus une somme totalement pharaonique.
Non, mais visiblement, personne ne l'a trouvé. Il y avait effectivement 3 millions de l'État. L'État mettait 3 millions, mais il fallait trouver l'équivalent en fonds privés.
Ouais. Caroline Babelin, pardonnez-moi, allez-y. Ouais. Caroline Babelin, l'offre de reprise prévoyait de conserver, si j'ai bien noté ça, 125 postes sur les 235 du groupe, avec une parution papier 3 fois par semaine et non plus tous les jours en Guadeloupe et en Martinique, et une version numérique en Guyane. C'était pour vous un compromis acceptable ?
C'était peut-être mieux que rien. Maintenant, il est vrai que le plan, on avait beaucoup de mal à y croire, à ce plan de reprise par notre propre actionnaire.
Ouais.
On avait beaucoup de mal à y croire.
Pour quelle raison aviez-vous du mal à y croire ?
Par rapport à certains services qui disparaissaient, c'est un plan qui avait été fait dans l'urgence. Et à ce niveau-là, nous, les salariés, c'est vrai qu'on ne voyait pas bien comment ça allait s'articuler concrètement.
Emmanuel Poupard, est-ce que ce n'est pas finalement le triste sort de tout quotidien local, pardon de dire ça, qu'il soit des Antilles ou de métropole ?
Oui, enfin, vous avez en partie raison. Ce qui est très particulier, c'est que le modèle économique de la presse écrite était installé dans les années 90 sur un modèle qui était le suivant, c'est-à-dire que la publicité permettait aux journaux de tenir le coup et aussi les petites annonces et les légales.
Ouais.
Donc ce modèle a complètement été chamboulé.
Oui, il y a 4 revenus en plus des ventes.
Oui, en plus des ventes. Donc ouais. Ce modèle a été complètement chamboulé par l'arrivée notamment d'Internet. Le fait de l'érosion du marché publicitaire qui en a pris encore un coup après la crise de 2008. Mmh. Et donc le fait d'arriver sur Internet a complètement chamboulé ce modèle-là. Il y a quelques dizaines d'années, on achetait le journal pour les petites annonces. J'imagine que vous n'achetez plus maintenant le journal pour les petites annonces.
Ben non, c'est terminé.
C'est sur Internet.
Bien sûr.
Donc voilà, tout ce modèle a été complètement chamboulé. Donc les éditeurs essayent de trouver un nouveau modèle économique viable en mettant du numérique, ce qu'on appelle le web first, en presse écrite, mais qui demande un changement quand même radical de modèle économique, et avec les conséquences aussi qui peuvent arriver, c'est-à-dire une érosion des licenciements, et puis qui nécessite des investissements lourds et importants de la part des propriétaires des médias.
Alors, le SNJ suit le dossier depuis le début. Oui. En octobre, votre syndicat écrivait dans un communiqué qu'il fallait tout faire pour que le groupe d'outre-mer ne sombre pas dans une indifférence, que l'éloignement géographique ne saurait justifier. Vous voulez dire qu'on n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire ?
Ben, c'est-à-dire que moi je comprends la consoeur et on était plusieurs à vraiment accuser le coup quand il y a eu cette décision qui est tombée du tribunal de commerce, puisqu'on y croyait aussi, on se disait mais c'est pas possible que ce journal mette la clé sous la porte. En plus, il y a eu différentes audiences du tribunal, donc on se disait qu'il y a une chance quand même que quelque chose allait être trouvé. Donc c'est vrai qu'il y a eu ce trou d'1,3 million, vous l'avez dit, de fonds privés qui ne sont jamais arrivés. On a interrogé l'État. Moi, j'ai vu Franck Riester, le ministre de la Culture, la semaine dernière, et je lui ai demandé, mais comment se fait-il que l'État ne pouvait pas abonder davantage ? Et la réponse, c'est que ce n'est pas possible d'abonder plus de 1 pour 1, puisque l'Union européenne, sinon, tapait sur les doigts de la France.
Il faut respecter les lois communautaires de l'Europe. Désormais, je ne sais plus si on est 26, 27, 28 avec le Brexit. Vous restez avec nous, on regarde ça, on vérifie cette info.
Le groupe France Entier est liquidé, le quotidien disparaît. 3 départements français, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane n'ont plus de quotidien local. On continue à en parler avec nos invités dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média. Philippe Bondel.
Le tribunal de commerce de Fort-de-France a décidé la liquidation judiciaire du groupe France Antilles jeudi 30 janvier. C'est une page qui se tourne pour les 235 salariés du groupe et pour les lecteurs de Guadeloupe, Martinique et Guyane qui n'ont plus de quotidien local. On en parle ce matin, Philippe, avec vos invités. Caroline Babelin, rédactrice en chef de France Antilles qui est en Guadeloupe et avec nous par téléphone ce matin. Et Emmanuel Poupard, premier secrétaire général du syndicat national des journalistes.
Oui, 4h31 à BMAO où vous êtes, Caroline Babelin. On parlait de la Guadeloupe et vous disiez qu'il y avait des problèmes de rotatif. C'est un peu la même situation en Martinique, en Guyane. Par exemple, en Guyane, le quotidien France Guyane n'était plus imprimé depuis plusieurs jours par manque d'encre. Ça paraît complètement ahurissant.
Oui.
Ça vous étonne pas plus que ça, qu'on fasse un journal qu'on n'ait pas d'encre. Et Mayotte non plus n'a pas de quotidien local.
Non, Mayotte, ils ont un quotidien PDF en fait.
D'accord.
Par mail pour les abonnés.
Alors, c'est également une catastrophe sociale. 235 personnes en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane ont perdu ou vont perdre leur emploi. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez continuer à vous battre ?
Alors, on sait qu'il y a déjà des volontés de remonter un journal
ouais.
par certaines personnes. On a des échos. Maintenant, c'est vrai que nous, salariés, pour l'instant, là, on est plutôt dans les démarches Pôle emploi, voilà.
Et vous-même, vous êtes inquiète pour votre propre sort?
Pour l'instant, on a du mal à réaliser, on le sait, mais on s'interroge.
Ouais. Je sais qu'il est très tard ou très tôt pour vous, mais on a l'impression que vous êtes un peu sonné. Est-ce que je me trompe?
Oui, c'est vrai que là-dessus, sur l'avenir, sur ce qui nous attend, en fait, on est assez peu, on est finalement assez peu au courant.
Ouais.
D'ailleurs, là, aujourd'hui même, on a une réunion avec Pôle emploi. On a le mandataire judiciaire aussi qui va venir nous expliquer comment ça va se passer. Donc, pour l'instant, en fait, on attend.
Justement, vous parliez de nouvelles. Lors de ses vœux à la presse, c'était mi-janvier, le président de la République, Emmanuel Macron, avait promis des mesures spécifiques qui seraient prises pour aider la presse en Outre-mer. Est-ce que vous avez eu des nouvelles du président de la République, Caroline Babelin?
Non.
Voilà, au moins c'est clair. Vous avez publié un ultime numéro de France Antilles, Guadeloupe, samedi, en vente jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce numéro?
Alors, pour la Guadeloupe, donc on y trouve beaucoup de témoignages de tous ceux qui ont fait le journal depuis parfois 30 ou 40 ans, hein, qui y travaillaient depuis le départ, qui avaient démarré à France Antilles. On a voulu le faire vraiment sur les salariés du journal, ceux qui l'ont fait.
Ouais. Et le produit de la vente de cet ultime numéro va aller où? Je vais le citer parce que on n'est pas en train de parler d'un petit quelque chose, on est en train de parler d'un titre historique. C'est le 14 993 numéros pour France Antilles Guadeloupe, 15 949 numéros pour France Antilles Martinique. Le produit de la vente va aller où? Pour qui?
C'est pour les salariés. Voilà, pour abonder un petit peu, c'est un petit peu plus que le minimum légal. Pour le départ.
La version papier disparaît et quid de la version numérique de vos journaux?
Justement, on essaie de se renseigner puisque normalement l'hébergement va cesser à un moment donné. Toutes nos archives numériques vont disparaître.
Ah, vous n'aurez plus d'archives. Parce que moi, la question que je posais, c'était la version papier ne sort plus, mais il n'y aura même pas une version numérique qui sortait un petit peu à la manière de François, qui avait cessé de paraître en version papier, mais qui continuait à exister sur le net. Vous-même, il n'y aura plus rien. Silence radio.
Non, plus rien du tout. Plus rien du tout. Non, c'est tout s'arrête. Le site internet, alors qu'on était quand même le premier site d'information aux Antilles-Guyennes.
Ouais.
Et le papier. Ouais. Tout s'arrête.
Emmanuel Poupart, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous venez d'entendre? Je vois prendre des notes.
Oui, ça m'inspire beaucoup de dégoût parce que l'information, normalement, c'est pas une marchandise et on doit l'information, nous, en tant que journalistes, aux citoyens. Donc l'information, elle doit être libre, pluraliste. Et on ne peut pas se satisfaire de la fermeture d'un journal où que ça soit. Alors c'est vrai que vous l'avez dit, Emmanuel Macron, lors de ses vœux, a souhaité soutenir les dom-toms. C'est vrai que par rapport à la métropole, ils sont loin. Donc on a l'impression, malheureusement, que c'est des oubliés.
Parce qu'il faut le préciser, la presse, en quelque sorte, c'est aussi un service public. C'est une condition de la démocratie. Par exemple, j'explique aux gens que les journaux ont un tarif préférentiel à la poste. Les journaux payent moins cher les envois pour que tous les villages de France puissent être alimentés en presse écrite.
C'est une forme d'aide à la presse déguisée qui permet finalement de soutenir la presse.
Bien sûr.
Et sur les questions d'Emmanuel Macron là, sur le soutien au DOM-TOM, l'idée, alors il y a un plan filière qui est en cours d'audition par le ministère de la Culture pour soutenir la modernisation
journaux.
La presse en général.
Ouais.
C'est un fonds qui est énorme parce que les patrons demandent 160 millions d'euros, donc c'est pas une paille pour moderniser l'outil industriel et complètement, comme je disais tout à l'heure, investir dans le numérique. Mais c'est vrai qu'à côté, quand on a 1,3 million qui manquait côté France Antilles, donc on se pose quand même des questions parce qu'il y a 160 millions d'un côté et 1,3 million qui manquait de l'autre. Donc,
Pardon de cette discussion café du commerce et de ce rappel de chiffres, mais on est en train de parler de millions, de dizaines de millions, de centaines de millions. Les droits du foot en France, c'est 1 milliard et on trouve l'argent. Je ne suis pas en train de dire des choses aussi simplistes que ça, mais quand même, l'argent ne manque pas.
Non, l'argent ne manque pas, c'est vrai que, mais après, il y a une volonté politique qui doit aussi émerger, il y a une volonté politique et les 1,3 million, c'est pas non plus la panacée, mais ce que j'ai cru comprendre, peut-être que la consoeur le dira, il y avait aussi un manque d'investissement des fonds privés, je crois, du côté de la Guadeloupe, plus qu'en Martinique.
Vous êtes d'accord avec ça, Caroline Babelin?
Oui, tout à fait. Il y avait des investisseurs, alors connais pas les noms, mais en Martinique, mais pas en Guadeloupe. Ouais. Alors, il faut aussi savoir qu'en Guadeloupe, on avait le président du MEDEF local qui s'était porté aussi, qui voulait reprendre le journal.
Voilà. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite, Caroline Babelin? Il y a un nouveau quotidien qui va voir le jour aux Antilles, en Guyane. C'est un peu annoncé, vous y croyez? C'est un serpent de mer, ça va vraiment se faire?
Alors, je ne sais pas. J'avoue que ça va dépendre qui est derrière. Parce que monter un quotidien quand même aujourd'hui de rien, c'est quand même compliqué. On avait quand même 55 ans d'archives, on avait un réseau de correspondants. Remonter tout ça...
Bah d'abord, vous savez quoi, les archives, c'est pas perdu pour tout le monde, elles n'ont pas été effacées, donc vous pouvez toujours faire des sauvegardes. Et deuxièmement, il y a 235 journalistes qui cherchent du boulot, qui sont sur place et qui connaissent le terrain, donc tout n'est pas perdu. Pardon pour ce message d'espoir, pardon, peut-être que je m'avance un petit peu. Merci beaucoup, Caroline Babelin, d'avoir été en direct avec nous en pleine nuit. Vous êtes rédactrice en chef, je vais y arriver, de France Antilles-Guadeloupe. Merci de cet effort pour nous. Et merci également Emmanuel Poupard, premier secrétaire général du SNJ, le Syndicat National des Journalistes. Vous êtes basé sur quelle ville ?
Le SNJ est basé à
Paris. Non, mais vous-même.
Moi, je suis journaliste à Angers, moi.
Voilà, et ben, bon retour à Angers. Merci. Dans le 49. Merci d'avoir été en studio avec nous ce matin sur Europe.
Elle vient de terminer sa matinale sur RFM. Elle descend deux étages pour nous rejoindre sur Europe 1. Élodie Gossuin est notre invitée. On l'accueille dans un instant pour parler de l'émission Famille Extraordinaire qu'elle présente et qui est diffusée demain soir sur la chaîne Sister.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on est ravis d'accueillir Élodie Gossuin.
Bonjour Élodie Gossuin.
Bah, salut Philippe, bonjour à tous.
La France entière vous connaît depuis votre titre de Miss France 2001. À l'époque, ça faisait 14 ou 15 millions de téléspectateurs.
C'est vrai.
Ouais, il y avait 6 chaînes. Hein. Selon un sondage, vous êtes la Miss France qui a le mieux réussi sa reconversion. Wow. Alors bravo. On peut vous entendre tous les matins chez nos amis de RFM. Vous animez la matinale 6h, 9h30. Vous avez fini il y a 10 minutes.
Ouais, c'est ça, il y a 5 minutes. Mais c'est bien, je suis l'étage juste au-dessus. J'ai pris la et je suis chez vous, donc c'est cool.
Voilà, et vous êtes bien réveillé, vous n'êtes pas comme Pierre Palmade. On vous a vu dans les années Bonheur de Patrick Sébastien sur France 2. Également, je suis en demi-finale de Danse avec les Stars, c'est il y a 2 ans. Et votre actu, c'est une émission à vous, depuis la rentrée 2018 sur Sister, c'est la petite sœur de M6, Familles Extraordinaires. Et vous-même, vous avez une famille extraordinaire.
En tout cas, une famille qui est la mienne et dont je suis très fière.
Non, mais racontez votre famille.
On ne dit pas fin extraordinaire, c'est toujours parce qu'en fait, c'était
qui
pour
sort
dire
de l'ordinaire.
Qui sort de
bon,
l'ordinaire.
Alors, vous voulez que je le dise, et vous êtes la maman des jumeaux Jules et Rose qui sont nés fin 2007, puis des jumeaux, Joséphine et Léonard, nés fin 2013.
C'est vrai, oui, j'ai 4 enfants en 2 coups. C'est plutôt pas mal, 2 grossesses, 4 enfants.
Et vous avez aussi des jumeaux, ai-je appris, parmi vos frères et sœurs.
Ma sœur et mon frère sont jumeaux, exactement. C'est vrai, je suis grande sœur de jumeaux, donc ça va, j'étais rodée en fait à l'exercice.
Voilà. Alors si quelqu'un trouve que cette famille-là n'est pas extraordinaire, il m'appelle. c'est quoi le concept de l'émission ?
Mais de mettre en lumière effectivement des parents extraordinaires avant toute chose, la plupart du temps des mamans, il faut le dire, notamment même avec des numéros qui arrivent, des agricultrices et mamans, comment combiner plusieurs vies avec 24 heures qui ne suffisent pas en une journée. Par exemple, demain, un rendez-vous est pris avec des mamans qui se reconstruisent, qui ont une vie, on va dire, décomposée et qui essaient de recomposer leur vie, donc qui se marient, mais leurs enfants étant présents et en demandant l'aval à leurs enfants et les enfants qui préparent aussi le mariage. Donc c'est souvent plein d'émotions. Je ne fais pas un mix de sujets, enfin, c'est-à-dire les sujets, je pose ma voix dessus pour les narrer, en fait, tous.
Ouais.
Et je ne fais pas un sujet sans verser ma larme. Donc à chaque fois, je me dis, ça fonctionne parce que les sujets sont vrais. C'est authentique, je me reconnais toujours et faire de la télé qui soit fidèle à la vraie vie, ça fait du bien et ça marche, donc je suis encore plus fière du message qui est passé dans cette émission.
Il faut que je précise une des raisons pour lesquelles on est très ravis de vous recevoir ici, c'est qu'il y a plein d'émissions qu'on voit des magazines, je vais citer personne, dont la personne qui présente le magazine ne l'incarne pas. En fait, elle fait juste le lancement, elle est en plateau sur un fond vert. Souvent, on lui écrit son texte et après, le reportage est fait par une équipe. Là, vous investissez dans les sujets.
Oui, bah, en fait, globalement, dans ce que je fais, et c'est simplement parce que j'ai besoin pour moi de pouvoir revendiquer, de savoir ce dont je parle. Quand je fais les choses, je veux pas être juste un prête-nom.
Ouais.
Mais voilà, c'est peut-être aussi une sorte de complexe lié à Miss France. Je veux pas jouer à la plante verte de façon générale. Je pense que c'est pas que je veuille revendiquer ça, mais c'est simplement mon état d'esprit pour être, je sais pas, en paix, en harmonie avec ce que je fais. Ça fait démago, mais c'est vrai en fait. C'est juste de pouvoir défendre, de savoir ce dont je parle, et puis de porter cette émission. Si je fais cette émission et si je l'incarne, incarne, c'est justement parce qu'elle me ressemble aussi. On se retrouve entre mamans. Il y a une volonté aussi de, voilà, de, d'être solitaire entre nous et de vouloir effectivement de savoir quel sujet on va aborder, ce qui est en tournage en cours, des sujets que je ne veux pas aborder, enfin de donner,
ah oui,
de donner mon avis, quoi.
Lesquels vous voulez pas aborder? Si vous me lancez là-dessus, vous me trouvez tout de suite.
Ah mais oui, j'ai oublié que j'étais chez Philippe Vandel, merde.
Bah oui, c'est une
Mais effectivement, il y a des sujets un peu plus délicats, comme par exemple où on mettait en avant les cirques, mais avec animaux sauvages. Ouais. Des familles dans le cirque. Et voilà. Donc je ne voulais pas cautionner les animaux sauvages dans le cirque, par exemple. Mmh. Voilà. C'est tout.
Alors, le prochain numéro, c'est demain, jeudi, sur Cister. Le titre, je le donne, « Mariage des tribus recomposées quand les enfants s'en mêlent ». Et ce qu'on voit, c'est donc, vous l'avez un peu dévoilé, ce sont des enfants qui assistent au mariage de leurs parents. Il y a trois familles.
Exactement.
Alors, par exemple, on est en Meurthe-et-Moselle, chez Camille et chez Caroline pardon, et Denis. Elle a une petite fille. Son nouveau compagnon a deux garçons. Ils se rencontrent sur les réseaux sociaux. Ils tombent amoureux. Ils donnent naissance à une autre petite fille. Donc, les voilà six maintenant, mais quatre enfants. Ils viennent de décider de se marier et on va entendre un extrait avec, ça se passe avant le mariage, il y a les trois aînés qui discutent, la fille et les deux garçons, ils sont demi-frères et sœurs, on les écoute.
Vous avez déjà eu la crainte qu'ils se séparent?
Quand ils se disputent, mais des fois c'est les petites disputes voilà, de couple, on va dire ça comme ça, mais des fois c'est les vrais quoi. Donc
c'est la peur qu'ils se séparent et qu'on se voit plus.
On n'arrive pas à y croire, c'est beau, mais normalement, je croyais que c'était les enfants qui ne voulaient pas des familles recomposées, et là j'apprends que c'est eux qu'on veut. Vous leur avez tordu le bras ou c'était sincère?
C'était sincère, mais c'est dans le sens où ils ont déjà connu, en fait, si tu veux, la rupture, les difficultés, les familles qui volent en éclats, et en fait, souvent les enfants ont peut-être... de la difficulté à faire confiance aux nouveaux compagnons de maman ou papa parce qu'ils ne veulent pas reproduire à nouveau ça. Donc à la base, ils sont contre le mariage, enfin notamment pour ces enfants-là, parce qu'ils ne veulent pas revivre ce qu'ils ont déjà vécu. Donc à la base, c'est plutôt de dire, bon, on a besoin d'avoir confiance, mais une fois qu'ils ont adopté beau papa ou beau maman comme un véritable parent, se dire, bon, allez les gars, on se bouge les fesses, nous on a envie de faire un mariage, de faire la fête, on a envie de participer. Et c'est super beau parce que très souvent, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais les enfants eux-mêmes le disent, voilà, on était des familles complètement décomposées et on a envie de vraiment se recomposer. Et c'est super beau comme message.
C'est ce qu'on verra demain soir sur Cister. Il y a des situations extraordinaires, même limite extrêmes, des familles au sens propre du terme, extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, celle-ci.
En région parisienne, Muriel, 53 ans, vit toujours avec ses trois filles. Jennifer, Julie et Caroline. Les trois sœurs sont nées d'un premier mariage. Il y a 5 ans, Muriel divorce et refait sa vie avec Karim, de 8 ans, son cadet. Lui aussi a eu 3 enfants d'union précédente. Ilan, 20 ans. Son frère Dorian, 15 ans. Et Léa, 9 ans, leur demi-sœur. Aujourd'hui, tout le monde s'entend à merveille et la famille s'est même agrandie.
Vous savez comment elle s'est agrandie, la famille, Céline Dacosta?
J'imagine, je devine.
Comment?
Ben on imagine qu'ils ont fait un autre enfant,
non,
voilà.
Non, ils ont pris 2 chiens.
Mais non.
Mais si.
Mais ça fait déjà 6 enfants. Mais tu sais, moi, ce qui m'a fait rêver dans ce sujet, et je rêverais de ça, c'est que les 3 filles, donc de la future mariée, et ben du coup, tu fais ton enterrement de jeune fille avec tes filles et tu fais la fête avec des enfants qui ont 18 ans.
Et
c'est
juste
génial,
un mot,
quoi.
Vous savez que vous n'êtes pas au 4e, vous êtes au 3e étage.
Ah, c'est le contraire, je suis moi au 4e sur RFM.
Et donc, sur Europe 1, on ne se tutoie pas.
Pardon.
6 enfants au petit-déj, franchement, c'est pas l'enfer.
Ben moi, 4, c'est. Enfin, l'avantage, c'est que je suis en matinale, donc
ça
la semaine, je suis jamais.
Ça va être ma question, parce que vous n'êtes pas au petit-déj, vous n'avez seulement 4.
Que le week-end.
Et votre mari, il craque pas à s'occuper tout seul des 4 enfants au petit-déj?
Je sais pas, non, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. En fait, c'est à chacun de trouver sa voie, sa façon de vivre. Je crois qu'il considère comme une chance de voir ses enfants tous les jours, d'être presque papa au foyer, parce qu'il travaille quand même encore. Mais de cette chance de pouvoir les accompagner, moi j'en souffre de ne pas emmener mes enfants à l'école le matin, de ne pas être là pour le petit-déjeuner, de louper ces moments-là. C'est pour ça que ma priorité, c'est d'être là tous les jours à la sortie de l'école. Donc là, d'ailleurs, il faut que je sois à la sortie du collège ce midi. Voilà. Donc
d'accord.
Je vais me dépêcher après.
Vous roulez vite, vous avez tous vos points?
J'ai tous mes points.
D'accord, mais un mauvais bilan carbone. On voit des choses.
Je passe à l'électrique le mois prochain, monsieur.
On voit des choses assez dingues. On voit les filles qui organisent l'enterrement de vie de jeunes filles de leur mère. Et la mère, épreuve demandée par les filles, d'aller dans la rue demander à un policier un certificat de virginité.
Oh là là.
Mais où est-ce que vous les trouvez? Comment vous faites le casting? C'est quoi ces familles?
Mais justement, c'est des familles qui aussi ont cette once d'humour dont on a besoin, parce que oui, on a besoin de ça pour, voilà, j'allais dire, avoir le sourire. Ça nous fait vraiment du bien.
Vous savez quoi? On n'a même pas parlé des audiences. On en parle juste après ça.
Ok.
Élodie Gossuin est notre invitée, avec elle, on continue à parler des missions qu'elle présente sur Sister, Familles Extraordinaires, et qui est diffusée le jeudi soir. On se retrouve dans un court instant sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Familles Extraordinaires, c'est demain soir sur Sister et c'est notre invitée qui a elle-même une famille extraordinaire qui la présente, Élodie Gossuin.
Les audiences, Élodie, oui. Vous les connaissez?
Oui, le vendredi matin, il faut que je sois honnête, effectivement, à 9h03, je suis vraiment en stress en attendant les audiences parce que tout dépend de ça aussi, c'est vrai, il faut en avoir conscience. Mmh. Le fait que ça se poursuive, le fait qu'on vous fasse confiance, qu'on vous laisse le choix sur des thèmes à venir, sur le fait de diversifier cette émission ou pas. Et la semaine dernière, je suis très contente parce que ça a fait 511 000 et 3% de part de marché de PDA.
Mais il faut le dire, ce qui est important, c'est que c'était votre record.
Ouais, c'est le record, et triple donc, record la semaine dernière.
L'émission a été lancée en novembre 2018. À l'époque, vous disiez de ces familles qui sortent du commun. On les regarde d'un drôle d'œil, on les envie ou on les plaint. Double question. Lesquelles enviez-vous? Lesquelles plaignez-vous?
Celle que j'envie le plus, parce que je ne pense pas en être capable moi, c'est de changer totalement de vie. Celle qui change de vie, on a vraiment souvent accompagné des familles qui, par exemple, il y avait un couple de médecins qui abandonnent tout pour aller ouvrir un hôtel au Brésil, ou celles qui partent sur un voilier faire le tour du monde avec des enfants de 6 mois et 3 ans, enfin un truc de dingue.
Attendez,
et j'adorerais ça en fait.
C'est vrai, ça vous fait envie?
Ça me fait envie de tout quitter pour aller pieds dans l'eau, quelque part les pieds dans l'eau, où vous voulez.
Mais bien sûr, ils vont être super contents, les gens de RFM, de savoir que vous avez envie de vous barrer. Vous vous rendez compte de ce que vous dites?
Justement, je dis que je les envie, mais que je n'en serais pas capable. Mais forcément, c'est les sujets, dans ces sujets-là, à chaque fois, je trouve que ça force l'admiration, comme celles qui ont déjà 12 enfants qui se disent « j'adorerais avoir des jumeaux demain ». Donc tu te dis, voilà, ça force l'admiration. Je les envie quelque part de trouver cette force de caractère et cette abnégation qui n'est pas donnée à tout le monde.
Et
quoi.
Puis ça fait aussi l'envie des vendeurs de céréales et de lait pour le petit-déj. Et lesquelles, familles, plaignez-vous?
Celle que je plains, c'est celle que je vois avoir une famille extrêmement nombreuse et galérer en se demandant si elles ont fait les bons choix dans la vie, donc c'est-à-dire en étant moins épanouies. Ouais. Évidemment, je les plains parce que peu importe le schéma familial que l'on est, tant qu'on le choisit, c'est là où finalement on y trouve son bonheur et son harmonie, et ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc celle-là, effectivement, c'est plus difficile de les accompagner, je trouve.
Ouais. La semaine dernière, une chose qu'on n'a pas dite, c'est que vous avez fait un très très bon score avec un sujet pourtant qui est battu
important.
Et rebattu, qui est important mais qui est battu et rebattu, qu'on a vu 100 fois, c'est pas facile de passer l'écologie.
Oui, mais parce que c'était pas abordé de la même façon dans le groupe M6.
C'est-à-dire, de quelle manière l'avez-vous
traité? Justement, c'était de montrer que c'était de quelle façon économiser tout en étant écolo. C'est-à-dire qu'on n'était pas sur une façon élitiste de voir l'écologie, c'était vraiment une façon très proche. C'est des gens qui, au quotidien, sont dans l'autonomie électrique, par exemple, l'installation de panneaux solaires, le potager, les bocaux en verre, les petites transformations du quotidien qui ne coûtent pas grand-chose, qui ne sont pas chronophages aussi, parce que des fois, on nous parle de trucs, mais c'est bien sympa, mais quand tu bosses déjà 12 heures par jour et que justement t'as 4 gosses, comment tu fais? C'est impossible.
En bas de chez
moi, on
est
dans cette approche-là.
J'habite dans le 11e et il y a évidemment des épiceries vertes, écolo, bio qui s'ouvrent. Parfois, c'est tellement cher qu'ils vendent les choses pas par kilo, par 100 grammes.
Ouais. Mais c'est hallucinant.
Pour que psychologiquement, on ne soit pas rebuté par le prix d'un légume. Et en plus, malheureusement, ils font payer le prix. Ils ne gagnent pas des 100 et des 1000. Ça devient vraiment très, très
cher. Après, tu as des solutions même chez toi pour des produits ménagers. Si tu as du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, tu peux quasiment tout faire. Enfin, il y a plein de petits trucs, voilà, qui sont finalement à la portée de tout le monde. Pardon, ça te fait rire.
Ça si tu veux dire parce que on n'habite pas ensemble, donc c'est pas la peine de me tutoyer. C'est
pardon,
ça qui me fait marrer.
C'est pas un manque de respect, c'est juste une habitude qui est peut-être mauvaise.
J'ai bien compris, je vais le dire. Élodie Gossuin incarne la matinale 6h, 9h30 sur RFM. Et le code là-bas, c'est 11 dis-tu.
C'est vrai.
Vous dites n'avoir aucune intention de déménager. Vous habitez en Picardie.
Oui.
Et alors, dans Paris Match, vous dites très souvent, j'ai envie de déménager.
Ben c'est ce que
donc je voulais savoir, vous avez envie de déménager ou pas envie de déménager?
Non, je suis très heureuse, on est bien dans notre petit coin de paradis Picard. Après, forcément, des fois, tu peux avoir cette envie d'évasion, de te dire, avoir le courage de tout quitter, de reconstruire, de donner cette chance à tes enfants d'aller dans une école internationale ailleurs. Ouais, bien sûr que ça fait partie des rêves.
Et alors, vous faites une confidence que j'avais rarement vu faire de quelqu'un en exercice. En général, ils le disent après,
ah
mais vous dites, il m'arrive de craquer.
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce qui vous fait craquer ?
La fatigue, la crise de nerfs, les enfants qui n'ont pas fait leur devoir alors qu'il est 21h, alors que tu te lèves à 4h, que tu n'as pas eu le temps de te reposer pendant une demi-heure, que tu cours partout, que tu as les papiers administratifs en retard, que tu as des relances. C'est des petits cumuls. Il y a souvent aussi des gros problèmes, mais dans notre vie tous les jours, c'est un cumul de petits problèmes, même quand tu es de nature très optimiste. Parfois, tu t'en vas, tu craques, tu pleures, et puis tu reviens et ça va mieux. Et puis tu ne le montres pas aux enfants, surtout.
Non, mais je l'ai dit, ils vous écoutent, donc maintenant ils sont au courant. Non, je l'ai dit, votre couple est extraordinaire. Votre mari est à la fois mannequin, déjà c'est rare, et père au foyer. Mm-hmm. Il ne fait pas les papiers, il ne s'occupe pas des devoirs. Si. Il fait quoi le père au foyer alors ?
Il fait même les courses, c'est lui le responsable des achats de 50 ans.
Mais alors pourquoi vous craquez alors qu'il y a des dizaines, des centaines de milliers de femmes qui aimeraient être aidées au point où vous l'êtes, vous aider ?
Ah ben, j'ai le droit de craquer même si je suis aidée et que j'ai conscience de ma chance. D'autres sont dans une situation bien plus difficile que la mienne et en plus en situation souvent monoparentale. Ouais. Évidemment qu'elles forcent l'admiration, mais ce n'est pas pour autant que moi je n'ai pas le droit de craquer. Je craque aussi, et j'en ai le droit.
Merci beaucoup, Élodie Gossuin. Je rappelle, Familles Extraordinaires, c'est sur Sister. Demain, oui. Jeudi, le thème, ce sera mariage et tribus recomposés quand les enfants s'en mêlent. Et je vais absolument pas faire la promo de RFM, puisque en même temps, il y a Mathieu Béliard.
Mais c'est quand même le
je
même groupe.
Je vous le dis. Voilà.
Allez, Culture Média, ça continue, Philippe.
Évidemment que ça continue. Après le rappel des titres de 10h, on va parler culture avec Richard Anconina. Il tient le rôle principal dans le téléfilm Un mauvais garçon, ce soir sur France 2. Émission qui sera suivie d'un débat. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, les sorties ciné de la semaine avec Mathieu Charrier et de la musique avec Angèle Châtelier, Nicolas Godin, pardon, du groupe R.